les parties classiques, ce sera la deuxième des parties classiques. Et on va voir aujourd'hui une partie entre William Steinitz et Kurt von Bardeleben. Alors, c'est une des... C'est comme la partie avec Adam Storr, c'est aussi une des plus belles parties qui existent. Et Steinitz, pour situer les joueurs, on va situer les joueurs puis on situera la partie. Steinitz, il est né en 36. C'est un joueur qui est né en Autriche. Et qui est parti, qui a émigré aux États-Unis. Et il a été le premier joueur qui a été champion du monde. Ça a été le premier joueur en 1886. Il a été le premier joueur américain, oui, puisqu'il était américain à l'époque, à devenir champion du monde. Et... En face de lui, là, on va avoir Kurt von Bardeleben, qui est un joueur qui est né en Berlin, qui a beaucoup étudié les échecs. Enfin, il a été surtout étudiant en droit. Mais c'est un joueur qui est surtout réputé pour son mauvais caractère. Nabokov a écrit un livre qui s'appelle « La défense de Ludin », où justement on a un héros en ses fantasques, justement un joueur d'échecs assez fantasque, et justement, paraît-il, le livre serait basé sur Kurt von Bardeleben. Et la partie, elle se situe, on est en 1895, Steinitz vient de perdre son titre, un an plus tôt, c'est un vieux monsieur qui a un mal fou à se déplacer. Il se déplace avec deux cannes. C'est un barbu avec une barbe énorme et il se déplace avec deux cannes. Donc déjà, on le voit fini. Il y a des gens qui disent, bon, c'est la fin, etc. Et Steinitz et von Bardeleben est un petit jeune d'une trentaine d'années avec tout plein de trucs. Donc, voilà. Et disons que on va démarrer la partie. Alors la partie, c'est ce qu'on appelle un gyukyopian. Un gyukyopian. C'est-à-dire, c'est de l'italien qui veut dire un jeu lent. Alors, un jeu lent, mais ce n'est pas forcément tranquille non plus. Hein. Alors ça commence par Eva 2, Eva 4. Eva 7, Eva 5. Cavalier, Gustave 1, Félix 3. Cavalier, Bella 8, César 6. Et Fou, Félix 1, César 4. C'est ce qu'on appelle l'italienne. C'est une partie italienne. Maintenant, avec la réponse fou, Félix 8, César 5, c'est toujours une italienne. Et maintenant, le coup qui caractérise le gyukyopian, c'est César 2, César 3. Alors, d'habitude, il était plus courant de jouer D3. Mais quand on connaît un peu l'italienne, D3, c'est une variante avec des problèmes de clouage. Enfin, c'est toute une histoire, en fait. César 2, César 3, c'est-à-dire qu'en fait, les blancs cherchent à jouer David 2, David 4. Puis, après la prise de Eva 5, mange David 4, on récupère le pion avec le pion C, c'est-à-dire, et on obtient le centre idéal, c'est-à-dire un pion en David 4, un pion en Eva 4. c'est le centre idéal. C'est comme ça qu'on nomme la chose. Les noirs, là-dessus, maintenant, ils jouent cavalier, Gustave 8, Félix 6. Alors, on peut remarquer qu'effectivement, avec ce cavalier, ils sont en train d'attaquer le pion en Fe4, qui n'est pas défendable, puisque en jouant César 2, César 3, on a enlevé la case normale du cavalier. Et donc, on ne peut plus le défendre normalement. Il faut donc trouver un autre moyen. Le moyen, il est assez simple. On joue David 2, David 4. Si les noirs désirent manger le pion E4, ils sont d'abord obligés de faire quelque chose pour leur cavalier. Pour le fou qui est en César 5, qui est attaqué. Donc les noirs jouent Eva 5, mange David 4. Et les blancs répondent César 3, mange David 4. Et ainsi, si on regarde la position des blancs, ils ont ce qu'on appelle un centre idéal. Ce qui est un énorme avantage. Seulement, ils ont perdu des tempos pour faire ça quand même. Ils ont perdu un tempo. C'est pas énorme, mais c'est... Bon, c'est Steinitz quand même. Et maintenant, les noirs, si on laissait faire les blancs tout de suite, ils joueraient tout de suite des choses comme E5, pour déstabiliser le... ou surtout des choses comme D5, pour enlever le cavalier qui se trouve en... Enfin, on commencerait à avancer nos deux pions et à déstabiliser les pièces qui sont devant, et à gagner de l'espace. Mais là, les noirs ont quand même une petite ressource, qui est de jouer fou César 5, Béla 4, échec. Alors là, Steinitz va jouer un coup amusant. Il va jouer cavalier Béla 1, César 3. Alors d'habitude, on joue plutôt dans cette position, plutôt que cavalier Béla 1, César 3, on joue plutôt fou César 1, David 2. Ce qui fait que les noirs jouent fou Béla 4, mange David 2, et on récupère avec le cavalier, en David 2, on fait cavalier mange Béla 1, mange David 2, comme ça on protège le pion qui est en Eva 4. Mais là, on protège le pion qui est en Eva 4, mais qui n'est pas vraiment protégé. Donc, cavalier, Béla 1, César 3, c'est ce qu'a joué Steinitz. Alors, le mieux pour les noirs aurait été de jouer cavalier, Félix 6, mange Eva 4, puisque tant qu'à faire, on donne un pion. Et après, c'est toute une histoire de lutte. C'est un jeu très compliqué avec un pion de moins, mais où les blancs vont prendre une certaine initiative. Tandis que là, c'est difficile. Donc, les noirs jouent D7, D5, ce qui est une erreur. David 7, David 5. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on sait qu'il est obligé de réagir au centre, de toute façon. Puisque sans ça, comme je l'ai dit, les pions vont commencer à repousser les cavaliers et à gagner de l'espace sur le clan noir. Donc les deux cavaliers, s'ils bougent, ils désorganisent les pièces adverses, les pièces noires, parce qu'après il faut trouver des endroits où les loger. Donc là, il a décidé de jouer D7, D5. C'est amusant parce que la suite la plus logique, il faut voir qu'à l'époque, les ouvertures, je fais une petite digression là, à l'époque, les ouvertures n'étaient pas aussi étudiées que maintenant, elles en étaient au début. N'oublions pas, on est en 1895. Les ouvertures, c'était souvent trois lignes dans un bouquin. Je veux dire, lorsqu'on vous parlait d'une ouverture comme ça, celle-ci était plus étudiée quand même, l'italienne. mais certaines ouvertures ne représentaient que trois lignes dans un livre. Et il y avait encore plein de choses à découvrir. Alors qu'à notre époque de l'informatique, bah, c'est difficile de découvrir quelque chose de nouveau. Donc, les blancs jouent Eva 4, mange David 5. Voilà. Et les noirs jouent cavalier Félix 6, mange David 5. Les blancs jouent roque, petit roque. Les noirs jouent fou, César 8, Eva 6. Alors, je vous passe une variante très compliquée, basée à partir de cavalier, mange César 3. Ouais, il joue fou, Eva 6. Les noirs, les blancs maintenant, jouent fou, Gustave, fou, César 1, Gustave 5. Et les noirs répondent fou, Bella 4, il fou Bella 4, Eva 7. Alors maintenant, il se passe un truc très amusant. Il y a un motif d'attaque qui est très très peu évident tout de suite, qui est le fait que quelqu'un a laissé son roi au centre. Et pour bien appuyer dessus, il faut savoir, il y a quelques règles. Quand quelqu'un laisse son roi au centre, il y a, on a réussi à schématiser les schémas, enfin à schématiser, à donner les règles qui font marcher une attaque sur le roi resté au centre. Premièrement, il faut que la colonne soit ouverte. C'est le cas. Deuxièmement, il faut arriver à mettre une tour sur la colonne ouverte. On s'aperçoit qu'on va pouvoir le faire très prochainement. Il faut aussi, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une pièce qui soit devant le roi et qu'on attaque plein de fois. Comme ça, le roi ne peut pas roquer sans risquer de perdre la pièce. C'est à peu près les principes. Et si on n'arrive pas à ça, on attaque les cases autour, c'est-à-dire F7 et autres. Enfin, c'est des principes généraux. Et pour l'instant, on va voir comment Steinitz va faire pour montrer ces petits principes généraux tout simples. Il va déjà commencer par faire fou César 4, mange David 5. Enfin, prend David 5. Et donc, fou Eva 6, mange David 5. C'est le seul moyen de reprendre. Hein. On fait cavalier César 3, mange David 5. Dame, mange David 5. Et là, on s'aperçoit qu'il y a bien une pièce devant le roi, mais cette pièce-là, si on met la tour, c'est pas grave. Elle est déjà défendue une fois par le cavalier. Ce serait assez facile de se débrouiller autrement. Donc, les blancs jouent tout simplement fou Gustave 5, mange Eva 7. Donc, cavalier, César 6, mange Eva 7. Et maintenant, on est arrivé dans la position qui permet de dire, bah, on va attaquer la pièce qui est devant le roi. C'est-à-dire que maintenant, en toute simplicité, on joue tour Félix 1, Eva 1, et le roi ne peut pas roquer. Ce serait le bon moment pourtant pour le roi de roquer. Ça commence à faire dangereux. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas parce que bah, sans ça, il perdrait un cavalier. Et un cavalier, à cette étape-là de la partie, c'est crucial. Alors, si on regarde un peu la partie, il ne nous reste plus grand-chose, en fait. Le roi ne peut pas roquer. Si je ramène la dame pour protéger le cavalier, les blancs, qui sont loin d'être bêtes aussi, ils vont jouer leur dame en Eva 2 pour attaquer une deuxième fois ce cavalier. Ce cavalier, ça devient difficile. Donc, il ne reste plus qu'une solution. C'est de jouer le roi sur un des deux côtés du cavalier. En fait. Et c'est pour ça que les Noirs, là, jouent un coup qui est très simple. Ils acceptent d'abandonner leur roc et ils jouent Félix 7, Félix 6. L'idée, c'est d'amener le roi en Félix 7. Et comme ça, ils déclouront le cavalier. Et les blancs voient bien, ils jouent. Dame Eva 2. On met deux fois la pression sur le cavalier. On oblige à défendre ce cavalier une fois de plus. Alors, là, les noirs, pour défendre, il n'y a qu'une solution. Il faut ramener la dame à la défense du cavalier. On ne peut pas mettre une tour. Donc, où on va ramener la dame? Il y a trois cases vraiment possibles. Il y a D6, D7, D8. Alors, D8, ce n'est pas très très bien. Ça couperait la tour. Et c'est pas un coup nécessaire. Maintenant, il faut choisir entre Dame D7 et Dame D6. Donc, en fait, si les Noirs jouaient Dame D6, les Blancs joueraient Dame B5 échec. Il y aurait pour ne pas perdre un pion, les Noirs seraient obligés de jouer Dame César 6. Les Blancs joueraient alors Dame B4, Dame Bella 4, ce qui attaquerait le cavalier qui n'est plus défendu. Les Noirs seraient obligés d'aller à la défense de leur cavalier avec la dame. Et le pion qui est en B7 serait perdu. C'est pour ça qu'en fait, il reste vraiment plus qu'une solution. C'est Dame David 7. Alors, Steinitz joue tour Anna. Passant César 1. En César 1. Tour 1 à 1, César 1. On a une deuxième colonne ouverte. On utilise les colonnes ouvertes. Et les Noirs, justement, ils ont un peu peur. Et ils jouent César 7, César 6. Alors, roi F7 aurait été bien meilleur. Voilà, la position est établie. Et que faire? César 6 est une erreur. Alors c'est une erreur parce que il faut avoir vu aussi loin que ce qu'a vu que ce que voyait Steinitz. En fait, lui, il a prévu autre chose. Il veut continuer à attaquer. Ce roi d'abord qui bouge en Félix 7, puis ramener une tour en Eva 8 pour être à peu près libre. Et il faut donc aller assez vite. Il faut prendre des mesures énergiques. Et Steinitz va prendre une mesure énergique. Alors, et il va jouer un coup qui semble pratiquement impossible, enfin amusant. Il joue David 4, David 5. Mais vous allez me... Et il donne un pion. C'est un beau cadeau. Mais il ne le donne pas pour rien, en fait. Si on réfléchit, il vient de donner, c'est une des premières fois dans la littérature échiquéenne où on voit ce sacrifice-là, c'est le sacrifice d'un pion pour sa case. C'est-à-dire qu'on sacrifie le pion, pas pour des mesures énergiques, etc., mais parce qu'on a besoin de la case des quatre. Parce que si on regarde bien, pour aller vite, et la seule pièce qui puisse rajouter de l'attaque, en fait, c'est le cavalier blanc. Et si on regarde bien, il a très très peu de cases pour y aller, le cavalier blanc, pour aller attaquer. Et là, on donne justement le pion en D5 pour avoir la case D4, pour emmener beaucoup plus vite le cavalier sur le terrain du combat. Donc, les noirs prennent. César 6 mange David 5. Et les blancs font ce qu'ils avaient décidé, c'est-à-dire cavalier Félix 3 passe en David 4. Voilà, on a avancé notre cavalier, on menace plein de choses maintenant. Roi. Roi passe en... Oh là là, je suis... Roi passe en Félix 7. Eva 8, Félix 7. Et maintenant, un coup assez simple. Cavalier. David 4. Eva 6. Eva 6. Alors, il est protégé à la fois par la dame et la tour, donc il n'a rien à craindre. Et il a trouvé quand même une très bonne case. En plus, il menace plein de choses amusantes. Il menace tour César 1, César 7. Ce qui rajouterait par le côté une pression sur Eva 7. Les noirs décide de jouer tour Hector 8, César 8. Et maintenant, on va tomber sur un coup très amusant. Les blancs jouent dame. Eva 2, Gustave 4. Et avec une énorme menace. C'est-à-dire que là, je menace au coup suivant de faire dame mange Gustave 7, oui, pardon. Et le roi serait obligé d'aller en Eva 8 et je jouerai roi dame Gustave 7, Félix 8, mat. Donc ce serait bien dommage. Donc les Noirs sont obligés d'empêcher ce coup-là. Et le seul moyen qu'ils aient à leur disposition, c'est de jouer Gustave 7, Gustave 6. Et maintenant, on va en venir à la science calcul. Petit à petit. On va poser la position telle que Steinitz l'a vue. Et les blancs jouent cavalier Eva 6, Gustave 5, échec. Alors, ça fait un échec, et ça attaque la dame, c'est-à-dire que si on mangeait le cavalier, bien sûr, la dame qui est en G4 irait manger la dame qui est en David 7. Ben, il ne reste qu'une solution pour parer les deux menaces. C'est de jouer roi, Félix 7, Eva 8. Et maintenant, on va rentrer dans une combinaison qui est une des plus belles qui soit. Et bah, maintenant, il faut réfléchir. Que jouer pour les blancs ? En fait, il y a une égalité, une quasi-égalité. Si on mange la dame, bah, on se fait... C'est juste un échange. Ça va pas apporter grand-chose. On va peut-être récupérer notre pion en Hector 7. Et encore. En fait, Steinitz va jouer tour Eva 1, mange Eva 7, échec au. En prenant avec Dame David 7, mange Eva 7. Maintenant, les blancs donc à jouer, tour César 1, mange César 8. Donc, tour César 8, mange César 8, sans ça c'est mat. Et ensuite, Dame Gustave 4, mange César 8, échec. Et soudainement, on s'aperçoit que le seul moyen de parer cet échec-là, c'est de mettre la dame devant le roi, ce qui va faire un échange, on va échanger, dame mange David 8, roi mange David 8, et on va se retrouver avec un cavalier de plus, contre un pion. Donc normalement, la finale serait gagnante sans problème pour les blancs. Maintenant, effectivement, on pourrait manger avec le roi, en E7. Donc, on va le faire. Hein. Roi, mange E7. Alors, sachant que ce n'est pas ce qui a été joué dans la partie. Donc, on voit avec roi, mange Eva 7. Tour César 1, Eva 1, échec. Il n'y a pas trop de solutions, en fait. Ben, roi passe en David 6. Oui. Dame, Bela 4, échec. Alors là, il y a deux solutions. La plus simple, c'est tour... s'il y a roi C6, ça donne tour C1, tour, s'il y a roi César 6, là, sur cet échec, il y a tour Eva 1, César 1, mat. Si le roi va en César 7, il y a cavalier. En César 7, il y a cavalier Gustave 5, Eva 6, échec. Donc, Roi passe en B8. Et Dame. De Bla4 à Fx4, et là on peut dire que la partie est terminée. Parce que si on met la tour César 8 passant César 7, il y a cavalier mange César 8, et on ne peut pas reprendre avec la dame parce que si on fait dame mange César 7, il y a tour qui va en Eva8. Et ça fait mat parce que la dame est clouée. Donc en fait, dans tous les cas, on n'est pas bien du tout. On ne peut pas reprendre cette tour. Et les noirs, bah, ont décidé, c'est hyper simple. Ils ont joué. Donc, Kurt von Bardeleben réfléchit un peu, il s'aperçoit qu'il peut prendre ni avec le roi, ni avec la dame. Que toutes les suites ne sont pas bonnes. Alors il va jouer tout simplement, après avoir calculé un petit peu, il prend sa chance en jouant roi, Eva8, Félix8. On s'aperçoit que la dame en G4, que si on regarde les pièces non défendues chez les noirs, la dame n'est plus défendue. Faut pas non plus jouer cavalier mange H7, parce que dans ce cas-là, c'est très facile, on fait roi mange tour et on se sort de l'histoire. Je veux dire. Et donc, bah, effectivement, j'ai entendu la bonne réponse. C'est tour F7. Parce qu'on ne peut pas manger la dame tout de suite. Donc il y a tour F7. C'est énorme. Bah, il s'est tenu par le cavalier. Maintenant, si dame mange, ça va être dur, hein. Si dame mange, bah, il y a toujours la technique de tour mange C8. Repris par la dame après, avec échec, et ben on sauve tout. Donc, tour mange F7, on ne peut pas reprendre, ni avec le roi, enfin surtout pas avec le roi, puisque ce serait un échec, mais on ne peut pas reprendre avec la dame. Donc il reste qu'une solution. Alors, on pourrait se dire, je reviens en Eva8, mais on sait déjà que ça va mal se finir, puisque si on revient en Eva8, il y a dame mange David 7, échec et mat. Donc on ne peut pas revenir en Eva 8. On est obligé de continuer notre périple plus loin. Donc les noirs jouent roi Gustave 8. Ce qui est un très bon coup d'ailleurs, hein. C'est le seul coup possible dans la position pratique. Ben, maintenant, il faut trouver un nouveau coup pour les blancs. Alors. On peut toujours pas manger la dame. On se ferait toujours mater par le mat du couloir en bas. Tour G7, c'est le seul moyen de poursuivre l'attaque. Mais là, il faut quand même calculer un petit peu plus loin. C'est-à-dire que il y a trois solutions là. Il y a roi mange, ce qui est possible. Mais dans ce cas-là, le problème est vite réglé. Si roi, il y a dame prend dame avec échec. Et il y aura le mat au coup suivant, soit en F7, soit en Félix 7, soit en Hector 7. L'affaire est réglée. Maintenant, on sait qu'on ne peut pas prendre avec le roi. Est-ce qu'on pourrait manger avec la dame? Et là, on retrouve, tombe exactement sur le problème précédent, c'est-à-dire avec tour mange César 8. Tour Anna mange César 8, Dame mange César 8, encore un roi qui est coincé par sa dame, on est obligé de remettre la dame devant. Encore un échange, et puis bah, on se retrouve avec le cavalier qui est largement suffisant en finale. Hein. Je veux dire, bon, bah, c'est donc pas possible de manger avec la dame non plus. On peut donc toujours pas prendre le loisir de déguster cette tour blanche qui nous enquiquine le long de la septième. Il reste plus qu'une solution. Ah, deux solutions. Bouger le roi. Là, il nous reste de bouger le roi. Alors, on peut jouer roi fait d'X8, revenir en arrière. Mais là, l'affaire serait assez vite réglée. Parce qu'il y aurait cavalier mange Hector 7, échec au roi. Et si le roi revenait en Hector 8, en Eva 8, ben on ferait mat en mangeant la dame David 7. Et si le roi mangeait en Gustave 7, ben on mangerait la dame en David 7 avec échec.
C'est logique.
Ce qui fait que ça finit complètement l'histoire. Donc, on ne peut pas revenir en Félix 8.
H8.
Seule solution, roi Hector 8. Alors maintenant, il faut encore trouver une solution pour les blancs. Je ne peux toujours pas manger la dame. Tour prend H7 échec. C'est ce qui vient tout de suite à l'esprit. Et c'est effectivement le bon coup. Cette tour continue à enquiquiner le problème. Continue à nous enquiquiner sérieusement. Voilà. Et là, à ce moment-là de la partie, il y a un Kurt von Bardeleben qui s'est levé, qui est parti, et qui n'a jamais remis les pieds dans l'enceinte du trône. Il est parti sans abandonner. Enfin, si, quelque temps plus tard, il a envoyé un petit mot pour dire qu'il avait abandonné. Histoire de vous dire comment il était fantasque, le bonhomme. Hein. Il a fait Kurt von Bardeleben finira par se suicider en se jetant du deuxième étage d'une chambre d'hôtel. Donc, je recherche en 1924. Et là, par contre, il est quand même parti en ayant quand même vu toute la combinaison qui mène jusqu'au mat. Alors, il y a une combinaison là qui mène jusqu'au mat. On va avancer un peu dans la position. On joue roi G8. Tour G7. Ça marche très très bien. Sauf qu'il y a une toute petite différence par rapport à avant. Il peut toujours pas revenir en F8. Sans ça, on fait cavalier H7, échec au roi. Et on finira avec une dame. Donc maintenant, il revient à H8. Voilà, je peux mettre la dame en H4 et donner un échec.
Ouais.
Ce sera un mat, il reste plus qu'une solution.
Il bouffe la tour.
Il mange la tour, effectivement. À partir de là, la solution, vous allez voir comme elle est simple et progressive.
Dame H7, non ?
Dame H7, échec au roi.
Ah oui,
seule solution. En plus, il ne reste qu'une case au roi. Il n'y a qu'une case de fuite. Et la dame.
Ah ouais.
Donc, il ne reste plus que roi, Félix 8. On ne peut toujours pas manger la dame en David 7.
Dame H8, échec.
Dame H8, échec. Il lui reste encore plus qu'une seule case de fuite.
Eva 7.
En Eva 7. Ensuite, il y a un truc simple. Il y a dame, Gustave 7.
Échec.
Et
mat. Non, échec.
Ah non, échec et mat.
Échec.
Alors, il y a plusieurs solutions. Là, il pourrait aller en David 6. Mais en David 6, il va nous donner une dame. Parce qu'en David 6, je vais jouer cavalier Félix 7.
Ouais.
Et ça va finir pas très bien.
Ouais.
Donc il joue roi Eva 8.
On continue. Hein.
On continue. Dame passe en Gustave 8. Échec. Il y a une seule solution. Roi Eva 7. Maintenant,
tour Eva, maintenant.
Non, soutenu par le cavalier, on joue dame Félix 7.
Félix 7, oui.
Ouais.
Et il reste vraiment plus qu'une bonne solution. C'est roi David 8. Il essaye de se planquer. seulement voilà, il y a dame,
Félix 8,
échec. Et là, il n'y a plus qu'une solution. C'est mettre la dame entre la dame. Entre la dame et le roi. Donc, dame, Eva 8.
Cavalier, Eva 6.
Oui, c'est
ça. Alors, en Eva 6, c'est dommage. L'idée est bonne, c'est de donner un échec.
Oui, Eva 7, oui, Félix 7, oui, c'est mieux.
Mais en Félix 7, c'est encore meilleur. Donc, il y a cavalier, Gustave 5, Félix 7, échec. Le roi est obligé de bouger. Et il n'a toujours qu'une case.
David 7.
Ouais. David 7.
David 7 et la dame en David 6.
Et je vous laisse conclure.
Dame voilà. David 6, Matt.
Dame,
oui.
Allez, là. Dame David 6, échec et
Matt.
Cette tour qui donne un échec depuis E7 jusqu'en H7 et qu'on peut jamais prendre. C'est... Pour un vieux monsieur qui marchait avec deux cannes et que tout le monde disait fini, ça a dû leur faire drôle. Parce qu'il a quand même... c'est celui qui nous a apporté aux échecs quand même pas mal de choses. Il a commencé par reprendre un peu les idées de Philidor. C'est le premier il y a eu Morphy avant lui, pour reprendre les idées de Philidor et d'en faire... Alors Morphy les a intégrées à son jeu et en a fait un jeu qui est énorme, qui est déjà un jeu positionnel. Et Steinitz, lui, a élaboré des bases de jeu positionnels. C'est lui qui nous a amené 11 règles, que je ne vous citerai pas là, mais les 11 règles de Steinitz, je veux dire... C'est celui qui a essayé de dégager des méthodes aux échecs. Et je veux dire, on parle des règles de Steinitz pour tout ce qui est de stratégie.